Bonjour à tous. Je crois que je dis à chaque fois la même chose le dimanche que je prêche. Est-ce que ça a été la semaine? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Parfois, c'est des semaines qui sont belles, mais il y a des semaines qui sont difficiles. Vendredi, il était quasiment 14h, presque 14h, on a eu un coup de fil au travail, qu'il y a un collègue qui est décédé, 52 ans, une crise cardiaque. Comment ça va vite ? La veille, tu parles avec quelqu'un et puis le lendemain, elle n'est plus là. Combien ça va vite une vie. Dieu nous le dit, nous sommes comme une vapeur, on la regarde et puis elle part. Mais ce n'est pas le thème de ce message ce dimanche. Par contre, vous allez répondre à plusieurs questions. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Dans votre cœur, il faut répondre. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais simplement y réfléchir. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » à ta femme ou à ton mari, à ta fiancée ou ton fiancé? C'est quand la dernière fois? Moi, comme j'ai préparé le message, je n'ai pas eu le temps de dire ce matin parce qu'elle est partie plus tôt que moi, mais je savais que je devais le dire au matin. Certains diront ben, ce matin, d'autres diront ben, hier soir. Une autre question, est-ce que c'est le même « je t'aime » que la première fois que vous l'avez dit? Est-ce que c'est la première fois? C'est comme la première fois. Et là, on va se rappeler, c'était quand la première fois? Elle s'accompagnait avec plein de choses. Je prends quelques exemples. Quand vous avez dit « je t'aime » à votre épouse, vous avez certainement dit « chérie, reste assise, repose-toi, je vais faire la vaisselle ». Et elle dit « oh mon chéri, que tu es gentil, mais je ne vais pas rester assise, je vais me lever et je vais te repasser ta plus belle chemise pour dimanche ». Un autre exemple. « Ma chérie, tu sais que je t'aime. Va faire un petit tour dans les magasins. Vas-y, promène-toi, passe un bon moment. Et moi, je vais nettoyer toute la maison. » Là, votre femme répond « Ah, mon chéri, que tu es gentil. Mais non, je ne vais pas sortir. Je vais nettoyer ta voiture, l'aspirer, parce que je t'aime. » Un dernier exemple, mais on peut en mettre et en mettre. Ma chérie, ce soir, c'est moi qui prépare le repas. Et là, je dois m'arrêter parce que ce n'est pas mon domaine. Vraiment pas mon domaine. Un jour, j'avais l'idée de faire quelque chose pour mon épouse. Il y avait déjà les enfants. Et j'étais en congé. À 8 heures, ils partent. Tous les trois. Et dans ma petite tête, je voulais faire des pizzas. Et voilà que je prépare, une fois parti, à 8 heures du matin, préparer la pâte. Mais la pâte, il faut la laisser reposer. Et puis, j'ai commencé à préparer la sauce. À un moment donné, la pâte s'est bien levée. J'ai commencé à faire la pizza. Comme je coupe des morceaux. Logiquement, c'est plus ou moins 30 cm, mais ce n'était pas forcément 30 cm. Et j'ai commencé à faire les pizzas. Mais j'ai vu à un moment donné, il était 3h30. Je dis, ils vont arriver. Je n'avais pas encore terminé. On pouvait inviter tous les voisins. Je me suis trompé. Qu'ils sont arrivés, ils étaient contents parce que de dehors, ça sentait déjà une bonne odeur. Quand ils sont rentrés, waouh, ça sent bon. Mais quand ils ont vu les pizzas, ah, c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on aime? On peut donner plein d'exemples. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le même « je t'aime » qui a 20 ans, 40 ans, 50 ans, ou un an, 6 mois ou quelques jours? Et Paul, l'apôtre Paul, encourage l'église d'Éphèse à vivre cet amour. Jour après jour. On voit ça dans le chapitre 5. Vivre une vie d'amour. Alors, j'ai une autre question. Et ça, c'est pour tout le monde. Marié ou pas marié, fiancé ou pas fiancé, jeune, vieux, la question nous concerne à tous. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » au Seigneur? C'est quand? Certainement, vous allez me répondre aujourd'hui, ce matin, dans ce culte, qu'on a dit « je t'aime, Seigneur ». Et c'est vrai, parce que votre présence montre que vous avez de l'amour pour le Seigneur, que vous l'aimez. Une autre question, c'est quand la première fois que tu as dit « je t'aime » au Seigneur? C'est quand la première fois? Certains diront il y a 60 ans, 70 ans d'ici, 50 ans, 20 ans, un an, 6 mois ou quelques jours. Et la question qui est la dernière, est-ce que c'est toujours le même « je t'aime » qu'il y a 50 ans, 60 ans, ou un an ou quelques jours? Est-ce que c'est toujours le même « je t'aime » ? On va lire un texte que tout le monde connaît et certainement vous l'avez étudié à la réunion de maison. C'est Apocalypse, au chapitre 2, et nous lirons les 7 premiers versets. Il est dit au verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Voilà la lecture de ce matin. Je vais faire juste une petite introduction. Éphèse, je ne vais pas parler beaucoup, tout le monde connaît. C'était une grande ville que beaucoup de personnes la connaissaient. Elle était comme Rome, Corinthe, elle était très très connue. Et le début de cette église d'Éphèse, C'est un couple qui s'appelle Olivier et Priscilla. Non, je me suis trompé. Aquilas et Priscille. Ce sont des compagnons de Paul. Aquilas et Priscille vivaient à Rome, mais comme Aquilas était juif, à ce moment-là, les juifs devaient partir de Rome. Et il est parti à Corinthe. Et là, il a eu cette rencontre avec Paul. Il faisait le même métier. Et à un moment donné, Paul part à Éphèse avec ses compagnons, avec Aquilas et Priscille. Mais Paul n'est pas resté à Éphèse. Il est resté pour les déposer et il est reparti vers Jérusalem. Mais il avait promis de revenir à Éphèse. Et ce couple s'est installé à Éphèse et par leur témoignage, quelques personnes sont venues à l'Évangile. Et la réunion se faisait dans leur maison. Puis Paul revient au cours de son troisième voyage et là il est resté 3 ans à Éphèse. Il prêchait dans toutes les synagogues, ainsi toute la province de l'Asie. Ils ont entendu la parole du Seigneur. Et plusieurs personnes ont changé de vie. Ils ont été transformés par le Seigneur. Ceux qui pratiquaient la magie, il est dit, ils portèrent leurs livres publiquement pour les brûler. Il y avait vraiment un changement radical. Ils prenaient ces livres et les brûlaient. Et dans Actes, il est dit, ainsi la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais aussi, il y a eu des tempêtes, des épreuves dans l'Église. Beaucoup de personnes étaient méchantes, beaucoup de personnes de faux docteurs, des loups qui n'épargnaient pas le troupeau. Voilà l'église d'Éphèse. Et nous voyons à Apocalypse au chapitre 2, au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Après 40 ans d'existence, cette église va recevoir une lettre de la part de Jésus-Christ. Je dirais un petit check-up pour cette église d'Éphèse. Écrit à l'ange. C'est qui l'ange? Mais on pense que l'ange, c'est les messagers. C'est qui les messagers? Mais ce sont les responsables, les anciens, les pasteurs, aujourd'hui on dit. Ils vont recevoir cette lettre, les anciens. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est qui les 7 étoiles? Mais ce sont les anciens, les pasteurs. On peut vérifier ça dans le chapitre 1 de l'Apocalypse au verset 20. Ce sont les anciens qui sont dans la main de Jésus-Christ. Et qui les tient, ça veut dire vraiment qu'il tient très fort dans sa main. Jésus tient les anciens dans sa main. Ça me donne du courage. Ainsi pour toi, Jean-Pierre. Ainsi pour Mehdi qui n'est pas là et Benoît. Il nous tient dans sa main. Et je remercie, ainsi que les anciens le disent, on vous remercie pour toutes les prières que vous faites pour les anciens. Et Eric et Patrick le disent souvent dans leurs prières. Combien nous avons cette responsabilité, les anciens. Il est bon de prier pour eux. Mais en même temps, c'est Jésus qui est au centre de l'Église. C'est lui qui marche au milieu de l'Église. Ce n'est pas Gino, ni Benoît, ni Jean-Pierre, ni Mehdi qui marchent au milieu de l'Église. Mais c'est Jésus-Christ qui marche au milieu de l'Église, au centre de l'Église. Et voilà que Jésus va faire des éloges à cette église d'Éphèse. Il dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais tes persévérances, je connais quand tu souffres, je les connais tout cela. Je connais tes œuvres. » Chacun d'eux à Éphèse ont reçu un ou plusieurs dons, plusieurs ministères. Mehdi l'a dit la semaine dernière dans Éphésiens. Ils ont reçu ce ministère. Et parfois on croit que nous avons reçu un don, c'est tout facile, c'est simple. Non, dans ce ministère, il y a des heures et des heures de travail. Et Jésus les voit. Jésus voit les heures que tu passes pour préparer l'école du dimanche. Jésus voit les heures que tu passes pour ta présidence. Jésus voit les heures que tu passes pour la réunion de prière ou pour l'étude. Il le voit. Jésus voit les heures que tu passes pour aller faire une visite ou plusieurs visites. Jésus voit tout le travail que tu fais dans l'Église. Lui, il le voit. Peut-être pas tous le voient. Mais lui le voit. Et Jésus voit toutes ces œuvres de l'Église d'Éphèse. Et Jésus dit que tu as souffert à cause de mon nom. Que tu as souffert à cause de mon nom. Ses frères et sœurs ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Il y a une chose qu'on peut regarder ce matin. Ses frères et ses sœurs pouvaient arrondir leur message pour ne pas souffrir. Allez, on ne va pas dire ça, ou sinon on va souffrir. On va essayer de contourner le message. Je pense à Jean-Baptiste. Dès le début de son ministère, parlait avec vérité. Et après quelques mois, c'est la mort. Après quelques mois, c'est la mort. Et nous, comment on parle? C'est vrai, avec beaucoup d'amour. Mais est-ce qu'on ne doit pas dire la vérité? Ouais, mais je ne vais pas le dire. Après, mon collègue, il sera fâché. Oui, mais je ne vais pas le dire à mon frère. Après, il sera fâché après moi. Est-ce que c'est vraiment l'amour ne pas le dire? Parfois ça fait mal, mais plus tard il te dira merci. Ils ont de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. C'est qui ces frères Nicolaïtes? Bon, on ne sait pas trop. On pense que ce sont des personnes qui se disaient chrétiens et qui ne le sont pas. Ou on croit qu'ils vivaient une secte. Mais ils vivaient dans la débauche et l'immoralité. Et on voit également ses frères et sœurs ne toléraient pas leurs péchés. Ils étaient exigeants dans le péché. C'est pourquoi parfois on doit reprendre l'un ou l'autre dans le péché. avec beaucoup d'amour. Mais nous devons être exigeants. Ouais, mais Gino, il ne faut pas dire ça. Il a commis ça, mais c'est rien, laisse-le. Il va se repentir plus tard. C'est pour le bien de l'un et de l'autre. Parce que nous l'aimons. Nous ne voulons pas qu'il soit sur le côté. Ses frères et sœurs n'avaient pas peur de le dire. Et Jésus également dit, je hais les œuvres de Nicolaïte. Attention, ce qu'il dit Jésus. Il hait les œuvres, pas les personnes, les œuvres qu'ils font. Nous sommes appelés à les aimer, mais pas les œuvres. C'est une église, mes frères et sœurs, qui est belle, remplie de talents et de qualités. J'ai envie de changer, j'ai envie d'aller dans cette église. On a envie, quand on entend ces bruits de cette église, on a envie d'aller tellement que c'est bien. Mais Jésus dit quelque chose. Dans le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. De quel amour parle-t-il Jésus? Quel amour? Mais l'amour du Christ. Et l'amour du Christ est égal à l'amour de tout l'ensemble. L'amour des uns pour les autres, l'amour pour le ministère, l'amour pour le travail, l'amour de persévérer. Quand Jésus est au centre de l'amour, mais tu aimes le reste, tu le fais pour Jésus-Christ. Voilà, après 40 ans d'existence, Jésus n'est plus, ou du moins presque plus, au centre de l'Église. Jésus rappelle à cette Église, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi quand tu m'as dit je t'aime la première fois. Souviens-toi quand tu m'as dit je t'aime. Tu courais pour toutes les œuvres. Tu courais dans ton travail. Tu dépendais de Jésus-Christ. Tu persévérais pour le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu le fais par ta propre force, avec ton habitude, avec ton intelligence et ton expérience. C'est vrai. Vous savez, quand vous préparez un message ou autre chose, quand tu le fais, ça devient une habitude. Et tu ne le fais plus avec la dépendance de Jésus-Christ. Tu le fais parce que tu le sais le faire. Et c'est là qu'on tombe dans le piège. M'aimes-tu ? Jésus dit, m'aimes-tu à l'église d'Éphèse? Si tu m'aimes, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi. Souvent on dit à l'un ou à l'autre, repens-toi. Mais repens-toi de quoi? Ben, on va dire, ben, parce que tu as volé, repens-toi. Parce que tu t'es mis en colère, repens-toi. Parce que tu as commis un meurtre, repens-toi. Parce que tu as menti, repens-toi. Parce que tu as commis l'adultère, repens-toi. Mais ce qu'on dit, repens-toi. Parce que tu as oublié ton premier amour. Cette église n'avait peut-être jamais entendu cela. Repens-toi. L'amour de Dieu n'est plus au centre. Et pourtant, c'était le premier, et c'est toujours le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas que le message pour les anciens, pour l'Église. L'Église doit écouter. Il y a un remède, il y a une solution. On doit écouter et se repentir. Ou sinon, ton chandelier sera retiré. J'ai oublié de vous dire c'était quoi le chandelier. C'est quoi le chandelier? C'est tout simplement la lumière qui brille dans l'église. Et l'église peut vivre une vie d'église sans la lumière. Elle ne brillera plus. Et cette église, après 150 ans, voilà qu'elle n'existe plus. Le « je t'aime » après 40 ans n'était plus le même, n'était plus au centre de cette église. Alors, la conclusion, c'est « et toi, et moi, et nous l'église, souviens-toi ». Donc, d'où tu es tombé? Souviens-toi la première fois que tu as dit « Je t'aime » à Jésus. Souviens-toi de cela. On était fous pour Jésus. Jésus le dit aussi à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre, m'aimes-tu ? Trois reprises. M'aimes-tu plus, et on pense le plus que tes poissons qui sont en train de griller là. Tu m'aimes plus que ça. Et toi, m'aimes-tu plus que ce que tu fais jour après jour? Ce premier amour. Et là, je parle peut-être pour moi, qui me concerne en premier, celui qui prépare. M'aimes-tu plus quand tu parlais à tes voisins, à tes amis, à tes collègues, à ta famille? Tu te souviens, Gino, comment tu étais fou de moi? Tu te souviens quand tu allais à la réunion de prière? Tu courais parce qu'il n'y avait plus de place chez Rose ou chez Anne? C'était tellement, tellement rempli. Il y avait une soif de connaître Jésus-Christ. Jour après jour, j'étais chez Alain pour connaître Jésus-Christ. C'était le premier amour. J'étais fou, fou de Jésus-Christ. Le dimanche, avant de venir, je préparais des petites prières. Parce que je ne savais pas prier. On était fous de Jésus-Christ. On chantait, comme d'habitude, je ne savais pas chanter. Mais la grande différence, c'est que je chantais, mais je chantais avec le cœur. Aujourd'hui, comment on chante ? Excusez-moi. Après 20 ans, peut-être 40 ans, 50 ans, un an, est-ce que c'est toujours le même « je t'aime » ? Si nous, on s'est refroidi, à nous aussi de passer par la repentance. Pour revenir au premier amour. Un amour fou. Cet amour peut revenir, mais il faut passer par la repentance. Et la repentance passe avec un cœur sincère et vrai. Alors, ce premier amour va déborder en nous. Nous allons transpirer cet amour vrai et sincère. Je me souviens, à mon premier congrès en Allemagne, quand je me suis converti, on a eu la possibilité d'aller en Allemagne. Et là, on a appris plein de choses. Mais après, il fallait le mettre en pratique la semaine suivante. Et on était à Namur. Et je me souviens que j'étais là devant deux personnes, que je parlais du Seigneur Jésus-Christ, et ces deux personnes étaient attentives. Et à un moment donné, ils me disent « On ne croit pas à Dieu. » Mais ils m'ont dit, ils étaient honnêtes de me dire « Vous savez, on remarque bien que vous croyez en Dieu. Ça se voit, ça s'entend. Combien ça fait plaisir de voir l'amour transpirer en nous. C'est ça, ce premier amour. Il doit transpirer. Les uns les autres doivent voir que nous transpirons cet amour. Mes frères et sœurs, également dans le couple, ça va transpirer cet amour pour ma femme, pour mon mari. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est au centre du couple. Il est en centre de ma vie. Cette semaine, comme il a eu le football, bien sûr, le lendemain, avec mon chef, on aime bien parler un petit peu du foot. On fait les commentaires du match. On fait les journalistes. Et il m'a dit, après un moment donné, il me dit, « Gino, je me souviens, quand j'étais en primaire, il y avait un dans ma classe, il jouait au football de tout son cœur et de toute son âme. Mais quand il perdait, il pleurait et il pleurait. » Ça m'a fait réfléchir. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et à un moment donné, quand on a été dans l'échec, quand on a oublié, où on a fait quelque chose qui n'allait pas, ben on doit pleurer, pour revenir à cet amour de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Il dit au vainqueur, Et là, beaucoup de personnes se disent, mais s'il y a des vainqueurs, ça veut dire qu'il y a des perdants. Non. Non. Au vainqueur, c'est celui qui est le vrai et le vrai croyant. Qui a passé vraiment par la croix de la repentance. Et qu'il revient à la croix à chaque fois qu'il tombe et il demande pardon. Ça s'appelle une vie de sanctification. Au vainqueur, c'est le vrai croyant. Alors, ce vainqueur, il mangera de l'arbre de vie qui nous rappelle, oui, ce jardin d'Éden où l'homme et la femme a échoué. C'était l'échec. Mais ce ne sera plus le cas parce que le Seigneur Jésus-Christ est le vainqueur. Et en lui, je suis le vainqueur. Nous avons reçu la victoire. Nous allons manger cet arbre de vie qui est le paradis. C'est quelque chose de formidable que le Seigneur nous donne. Alors, pourquoi pas cette semaine de passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi pas prendre un jour de congé et te balader et t'asseoir sur un banc et commencer à méditer, à prier, à lire? Passer du temps dans cet amour, dans cette relation avec le Seigneur. L'Église doit écouter. Nous devons écouter. C'est le souhait des anciens et du pasteur. Nous voulons que le chandelier reste ici à Jumet jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais vraiment qu'on passe quelques minutes à méditer ces paroles. Pas les miennes, mais ces versets de 1 à 7. Je vous demande de passer quelques secondes et réfléchir. Et puis quoi, je vais prier.